enjeux de santé, 88.4.
Bienvenue à tous pour un nouvel enjeu de santé. Le thème aujourd'hui, c'est encore suicide. Non pas que je fasse une dépression, non, mais il me semblait important de revenir sur certaines questions du suicide. C'est pour ça que donc Yann Menot a continué à me parler de cette journée prévention suicide sur laquelle nous avons abordé différents aspects. Et j'ai rencontré un nouvel intervenant qui est un psychothérapeute, Gilles Cervera. Il va donc nous parler un petit peu aussi de l'importance du suicide et de sa vision dans la psychanalyse. Je vous laisse donc écouter tout d'abord Yann Menot nous parler un peu justement de cette journée de prévention suicide. Yann Menot, membre de COEPS 35, collectif Ensemble Prévenons le suicide en Ille-et-Vilaine. Est-ce qu'il y a beaucoup justement d'entourage qui justement se murent ? Est-ce que c'est le premier réflexe au final de justement de ne pas comprendre en fait ce qui se passe et voilà d'effacer un peu toutes ces idées ?
Se murer, effacer, je ne sais pas. Par contre, vous allez dire un mot assez important. Ne pas comprendre, oui. Alors ça, c'est quelque chose qui est universel dans l'ensemble des expériences auxquelles on a pu être confronté dans l'histoire de notre collectif. C'est effectivement des personnes qui survivent, qui sont dans l'entourage et qui survivent à un décès par suicide, sont dans l'incompréhension et vont chercher des raisons, vont chercher des coupables parfois, vont chercher leur propre tort, vont chercher ce qu'ils n'ont pas vu, ce qu'ils n'ont pas su faire. Oui, effectivement, ça, c'est un des aspects les plus dramatiques du suicide, c'est laisser les personnes qui vont survivre dans l'incompréhension la plus totale. Et ça va venir à la fois freiner le travail de deuil, ça peut aussi venir engendrer des phénomènes de reproduction du geste. C'est aussi là qu'on s'aperçoit qu'il est extrêmement important de verbaliser, de parler, de clarifier pour venir cesser des phénomènes de reproduction du geste. On voit bien qu'autour des suicides, et notamment historiquement, quand l'Église portait encore un tabou autour de ces questions-là, il y avait des tentations de cacher, de masquer les actes suicidaires en mort plus ou moins naturelle, mais en tout cas pas provoquées par l'individu en lui-même. Et ces réactions qu'on pouvait comprendre, qui étaient engendrées par la société dans laquelle on vivait, il faut les replacer dans leur contexte, ont générer des phénomènes de reproduction d'actes suicidaires. C'est vraiment extrêmement important de poser des mots sur les actes, de permettre à chacun de verbaliser à la fois son ressenti, ses craintes, ses douleurs, de manière à être dans la prévention des actes à venir.
Justement aussi, est-ce que vous parliez donc de contexte, d'histoire, et est-ce que voilà, ce côté tabou qu'a imposé un peu les catholiques, les chrétiens, enfin les différentes religions, est-ce que ça n'a pas aussi justement fait augmenter cette sensation voilà, d'envie de mourir, puisque justement les personnes n'ont pas connaissance du suicide.
Alors, je vais reprendre vos mots, puisque dans l'interview, vous évoquez envie de mourir. Vraiment, je le martèle, les personnes qui font des tentatives de suicide et qui ont survécu nous l'affirment. Un acte suicidaire, ce n'est pas une envie de mourir. C'est vraiment la nécessité de mettre fin à une souffrance devenue tellement insupportable que la mort est la solution qui permet d'aboutir à mettre fin à cette souffrance. Ce n'est pas l'envie de mourir. Pour autant, les gens veulent vivre, mais ne veulent plus de la vie qu'ils ont, ne la supportent plus. Voilà, ça c'est petite parenthèse. Après, si je reviens sur la question de la religion, est-ce qu'elle peut être un frein ou au contraire un facteur favorisant les actes suicidaires? À partir de l'année 2000, la Mutualité Française Bretagne, à la demande de la DRAS Bretagne, a mené une enquête autour des questions de pourquoi cette sursuicidité en Bretagne? Pourquoi est-ce qu'on a des taux aussi élevés par rapport aux moyennes nationales? Ce qui n'était pas le cas au début du XXe siècle. Hein, la Bretagne était au contraire une terre de sous-suicidité. Voilà, ce sont des mutations. On s'aperçoit, pour expliquer cette sursuicidité, qu'il n'y a pas une raison, mais une quinzaine, une vingtaine de raisons qui s'entrecroisent et se nourrissent. Et parmi celles-là, la question de la religion, effectivement, a été évoquée. Il faut reconnaître que la religion, les religions, essentiellement les religions catholiques en Bretagne, au milieu du XXe, enfin jusqu'au milieu du XXe siècle, la religion catholique très présente, était au contraire un frein, un facteur de protection et de prévention du suicide. L'interdit posé par la religion a fait, même s'il y a eu du coup quelques suicides qui étaient, enfin des suicides qui étaient masqués, mais n'empêche que c'était un frein. L'interdit posé par la religion était respecté par de nombreuses personnes croyantes dans notre région. C'est le recul de la religion, le fait que les personnes soient moins pratiquantes, voire même moins croyantes aujourd'hui, qui a enlevé cette protection que l'Église posait. Voilà, en enlevant l'interdit, ou plutôt en faisant reculer le poids de la religion dans notre société, et du coup on a aussi fait reculer cette protection que l'Église portait autour de l'acte suicidaire. Voilà. Mais c'est une des raisons seulement à croiser avec beaucoup d'autres pour expliquer cette sursuicidité.
Je parle notamment de ça puisque je vois aussi que vous avez dans une table ronde une cellule de crise direction diocésaine de l'enseignement catholique. C'est plutôt atypique, non ?
Alors atypique, je ne sais pas, dans le sens où il faudrait peut-être regarder les programmes des années précédentes pour voir que nous essayons de varier nos intervenants et donner la parole à chacun. Cette année, effectivement, deux personnes en charge de cette cellule de crise de la direction diocésaine de l'enseignement catholique en Ille-et-Vilaine seront parmi nos intervenants pour faire part de leurs expériences. Mais elles interviendront sur la même table ronde que des psychiatres et psychologues venant de cellules d'urgence médico-psychologiques, de centres hospitaliers comme celui de Vannes ou le centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes. Donc on n'attache pas forcément une spécificité à l'origine de ces intervenants. Cela dit, rappelons qu'en Ille-et-Vilaine, c'est 40% des établissements scolaires qui relèvent de l'enseignement catholique. Donc c'est quasiment un élève sur deux. Ils ont une expérience depuis 10 ans qui nous a semblé intéressante à venir évoquer. Il n'y a pas de lien entre leur pratique et l'institution pour laquelle ils travaillent, à mon sens, puisque les cellules de crise travaillent elles-mêmes ensemble, se connaissent et ont des pratiques qui leur semblent. Cela dit, il nous a semblé intéressant puisque cette table ronde, elle vise à évoquer la prise en charge de collectivités. Les cellules de crise, elles interviennent quand il y a eu le suicide d'un jeune, par exemple, dans un collège. Elles vont intervenir pour prendre en charge l'ensemble des autres élèves pour lesquels il y a un risque de traumatisme. Les communautés éducatives aussi, il faut à la fois les prendre en charge, elles, individuellement, mais il faut aussi leur donner des billes pour reprendre leur activité, pour être en capacité d'accueillir les élèves qui vont revenir suite à cet événement dramatique. Notre réflexion vise à essayer de les faire s'exprimer sur la portée sociale et collective, l'impact que ça va avoir d'un geste qui est, lui, individuel. Et pour ça, les différentes cellules de crise ont des points de vue qui nous paraissaient intéressants et de croiser justement celles qui interviennent auprès des adultes comme celles qui interviennent plutôt en milieu scolaire, dont celle de l'enseignement catholique d'Ille-et-Vilaine.
Pour continuer sur vos intervenants, je vois aussi pas mal donc de professionnels de la médecine, donc centres hospitaliers, psychologues et autres. Et j'aimerais savoir justement, en plus, c'est la question donc de l'entourage. Est-ce que aussi ces professionnels, voilà, qui vont avoir eu peut-être un contact avec quelqu'un qui va faire une tentative de suicide, c'est quoi comme impact enfin, par rapport à eux, sachant que justement, ils ont soigné quand même la personne ou autre.
Je crois que chacun va réagir là aussi avec ce qu'il est. Quand on est un professionnel de santé, on est quand même d'abord et avant tout un individu et tous les infirmiers du monde ne sont pas formatés sur le même modèle et certains vont être très, très réceptifs à l'histoire, au parcours des personnes dont ils vont assurer le soin. D'autres, au contraire, vont mettre des distances beaucoup, beaucoup plus éloignées. Ce qui est important, c'est effectivement de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui sont en première ligne et qui sont dans la prise en charge, est-ce qu'elles-mêmes ont des espaces dans lesquels elles peuvent être écoutées? Est-ce qu'elles-mêmes, elles ont des dispositifs de prise en charge et de régulation? On le verra notamment autour des cellules de crise, effectivement, que chacun des psychiatres et psychologues qui intervient sur les cellules de crise est également accompagné par des dispositifs de régulation et d'expression. Effectivement, c'est très important de penser que si on est aidant, il faut aussi qu'on le soit aidé. Sinon, on est une éponge, on absorbe, on absorbe, on absorbe, et puis à l'arrivée, on craque aussi parce que chacun a ses limites. Donc pour tous ceux qui sont aidants, il faut des dispositifs pour permettre d'évacuer ce qu'on est en capacité d'absorber et d'être suffisamment costaud pour être un soutien pour les autres. Mais tout ça, effectivement, c'est à prendre en compte. Un des exemples qu'on a là-dessus, effectivement, on parlait tout à l'heure des catégories de personnes confrontées majoritairement au suicide. Moi, je vous ai répondu sur des tranches d'âge, adultes, personnes âgées, jeunes. On a un certain nombre d'éléments statistiques, là aussi, sur les catégories professionnelles. Or, on s'aperçoit que trois catégories professionnelles sont plus touchés que les autres vraiment par les questions de suicide. Il y a les agriculteurs. Bon, ça s'est fait, c'est lié au fait que leurs pratiques se sont extrêmement isolées. C'est-à-dire qu'un agriculteur aujourd'hui, il travaille relativement seul dans sa ferme. Il a du mal à trouver des remplaçants partir en vacances. Il est extrêmement isolé. Ça, c'est une première pratique. Alors, je suis dans le raccourci à extrême, mais c'est vrai que c'est une catégorie professionnelle qui est touchée. Autre catégorie, plus exposée que les autres au risque suicidaire, les policiers et les gendarmes. Ça s'explique notamment à la fois par la difficulté de leur métier, de leur responsabilité, mais aussi par leur accès aux armes à feu. C'est vrai que plus on réduit l'accès aux moyens de suicide et plus on réduit le suicide en lui-même. Et puis, troisième et dernière catégorie que je voulais citer, ce sont les médecins. Et là, ça répond à votre question, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les médecins sont ceux qui prennent en charge la santé des personnes qui ne vont pas bien, mais qui n'a pas de médecin pour les médecins. Voilà, on est sur des personnes qui absorbent vraiment, portent, et c'est une des explications pour lesquelles les professions médicales sont plus concernées que d'autres par les phénomènes suicidaires.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Menaud, de m'avoir un petit peu fait faire le tour donc, de cette journée prévention suicide. On va aussi faire une petite pause musicale.
Bye.
La pause est déjà finie. On va donc cette fois écouter Monsieur Cervera. Alors, je suis donc avec Monsieur Cervera, qui est psychanalyste, afin en fait de revoir un peu le suicide de façon psychanalytique. Et j'ai différentes questions pour vous. Tout d'abord, est-ce que le suicide a une typologie sexuelle? Enfin, souvent aussi, même dans le domaine gay, lesbien, on voit très bien qu'il y a un taux de suicidité très fort. Est-ce que c'est mal, au final, de voir une typologie?
C'est toujours mal de voir une typologie. La question du suicide échappe un petit peu à être abattue sur la question du genre, mais en même temps, c'est vrai qu'elle ne doit pas être complètement ignorée. Il ne faut pas le réduire à ça, c'est vrai. C'est vrai que dans le fait de s'assumer socialement et de penser ce qui arrive, et d'aller jusqu'à cet acte majeur qu'est la fin et le suicide et cette décision, évidemment que ça va croiser aussi des phénomènes sociaux.
Pourquoi les hommes, en fait, se suicideraient plus que les femmes?
Ah, elle insiste hein, sur la question du genre. c'est un fait, hein. C'est un fait que les situations souvent suicidaires, alors soit avec des équivalents, hein, je pense aussi aux adolescents, par exemple, qui ont des comportements de mobylette à contresens dans les rues, hein, dans les sens interdits, ou effectivement, plus tard, d'adultes qui passent à l'acte, comme on dit. En effet, on va trouver ça une propension, une tendance plus importante chez les hommes. Alors pourquoi? Ah, oh, c'est compliqué comme tout. Sans doute qu'effectivement, il y a cette espèce chez l'homme, alors pour le coup, si on veut genrer cette question-là, de grandes difficultés peut-être à exprimer, à s'exprimer dans le... Alors pas pour tous, hein, je ne généraliserai pas, mais à exprimer les soldes d'émotion, la complication affective. Et dans cette difficulté peut-être un tout petit peu plus grande à mettre en mots, pour dire tout simplement, on va passer à l'acte un tout petit peu plus facilement. Et l'acte suicidaire va venir de manière majeure et forte et extrêmement puissante et, pour dire cela, dire ce qui n'a peut-être pas pu être énoncé, métabolisé par le langage, par la conversation ou par le rapport à l'autre, tout simplement. Là, tout d'un coup, toc, il y a le raptus, cette espèce de décision qui n'en est peut-être pas une aussi, au fond, aussi importante que cela. Mais, c'est peut-être pas forcément une décision, je veux dire. C'est quelque chose qui vient, qui fait raptus, qui tombe, quoi.
On dit aussi souvent que les femmes auraient tendance à moins se suicider parce qu'il y a aussi l'instinct maternel qui joue, et comme on sait qu'on va pouvoir engendrer tout ça, on a beaucoup trop de scrupules à le faire.
Ouais, vous avez une lecture un peu sociologique, là, pour le coup, des questions. Moi, je pense vraiment que ça transgresse ces affects-là. Alors, peut-être, hein, ça peut participer, sans doute, de cette question de la maternité, cette sensation d'avoir mis au monde et du coup de ne pas pouvoir s'en retirer aussi brutalement. Mais je pense que surtout cette question du genre, puisque vous y revenez, homme-femme, je pense qu'elle n'est pas forcément pertinente sur cette question du suicide. On va pouvoir se rassurer, nous, à sociologiser, à typologiser, mais je crois vraiment qu'il va falloir qu'on passe sur un autre cran d'analyse de cette question-là.
Souvent, le suicide, on dit que ce n'est pas en fait une envie de mourir, mais plutôt une souffrance qu'on veut arrêter. Est-ce que, je ne sais pas, vous êtes d'accord avec cette proposition?
Ah oui, la proposition, je suis d'accord avec elle, là, oui. C'est vrai que le suicide vient pour ponctuer, pour soulager, entre guillemets, une souffrance qui est insupportable, insondable. Et c'est cette souffrance-là dont je parlais tout à l'heure, souffrance simplement d'exister, hein, souffrance de vivre, souffrance de ne pas comprendre ce qui arrive, si on parle de l'homosexualité par moment, quand elle est justement pas encore complètement dans l'identité, quand elle reste trop refoulée, trop complexe à aborder socialement, à penser et à assumer. Donc c'est cette question de la responsabilité qui tout d'un coup ne peut pas se métaboliser, n'a pas pu être pensée et qui va venir en effet pour certains individus comme un impossible. Et cet impossible-là, il va se réaliser de manière extrêmement brutale, violente, agressive aussi. Hein. On va pouvoir par ce geste-là dire à ses parents, par exemple, si je pense à cette situation d'un jeune qui passe à l'acte, comme ça, on le dit de manière extrêmement violente, la plus violente qui soit, en sautant de la vie à ses parents à qui on devait la vie. Une espèce de dette, de remboursement comme ça, extrêmement terrible.
Et du coup, l'entourage, pour vous, elle n'est pas en fait plus secouée que la personne qui a commis cet acte suicidaire ?
Plus, moins, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est secouée. C'est vrai que c'est évidemment un tremblement de terre, d'autant qu'en plus, souvent, puisque quelquefois le silence qui a davantage précédé ce passage à l'acte, ou la difficulté en tout cas d'élaboration, de pensée de ça, de parole, de conversation. Donc du coup, le suicide vient comme un effet de tremblement de terre, de surprise, évidemment de très très mauvaise surprise. Donc effectivement, les survivants vont être noyés dans une espèce de culpabilité, d'incompréhension, de ne pas avoir eu le bon geste, le bon mot au bon moment. Bien sûr que c'est terrifiant pour ceux qui restent après, en effet. Puisque ce geste-là est connoté avec cette pulsion de mort, avec cette pulsion de vie revendiquée dans cette espèce de grand mélange, comme quelque chose de très très agressif aussi.
Par exemple, si une personne aurait eu donc sa mère qui se serait suicidée, il y a aussi pas mal de gens du coup qui ont la crainte en fait de reproduire cette vie, de reproduire justement cet acte. C'est une certaine crainte.
C'est une crainte. C'est vrai qu'on peut voir des chaînes familiales comme ça avec des ponctuations et des répétitions. On peut retrouver ça. Alors, le craindre, c'est une chose. Le mettre au travail pour pouvoir le dépasser, c'est autre chose. Effectivement, alors là, la question du soin, la question d'être de l'entourage, de venir en aide à ceux qui restent et qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas comprendre ce qui est arrivé, là, évidemment, ça se pose pour que peut-être, en effet, cette chaîne de répétition possible, ce risque que ça recommence, soit un tout petit peu moins fort.
Et vous pensez du coup qu'il y a une culpabilité de l'entourage qui est naturelle ?
Naturelle, je ne sais pas si elle est naturelle, mais en tout cas, oui, la culpabilité, elle va être nécessairement apparaître, en effet, oui. Oui, parce que ce sentiment de simplement d'être abandonné par celui qui est parti va tellement poser de questions. On est là au cœur de toutes les énigmes familiales, si on est dans le réseau familial, mais aussi amical, si on est dans le réseau amical. Ça laisse effectivement tellement de questions sans réponse. La seule réponse, c'est celui qui s'est suicidé qui l'a emporté. Donc du coup, la culpabilité, en effet, est majeure. Donc d'autant plus la nécessité de parler, de penser le deuil. Mais ce deuil-là, il est tellement violent qu'il est peut-être encore plus difficile à métaboliser, à comprendre.
J'aimerais savoir aussi, vous pensez que c'est possible d'établir une continuité des souvenirs de celui qui commet justement cet acte suicidaire ?
Il faut. C'est l'effort à faire. Il n'est pas réductible comme n'importe quel être au monde, d'ailleurs, n'est pas réductible à un de ses actes, même le majeur, celui qu'il aurait pris en dernier, cette décision de se suicider, ne réduit pas toute sa vie à ça. Bien sûr qu'il a été autre chose avant, qu'il a été quelqu'un de vivant avant de mourir, et qu'il a été quelqu'un qui a produit de la joie, de la gaieté, de la tristesse. Et il y a eu toutes les relations qui ont précédé cet acte majeur. Donc du coup, il faut aussi s'appuyer sur tout ce qui a été constitutif de sa vie, y compris ses bons moments passés avec lui jusqu'au dernier qu'on n'a pas vu venir. Mais bien sûr qu'il faut s'appuyer sur, en effet, tout ce qui s'est passé avant et ne pas le réduire à cet acte insensé qu'on ne peut pas comprendre de la fin.
Là, j'aimerais passer à quelque chose d'un peu plus précis. C'est les religions donc, ont souvent condamné le suicide comme une atteinte à la création divine. Et est-ce que ça accentue pas justement aussi peut-être le mal-être de l'entourage de savoir que c'est pas entre guillemets légal au regard de leur religion ?
La mort, c'est le scandale absolu. Les religions ont toujours tenté de métaboliser ça, de transformer ça, de mettre du récit autour de cette vie après la vie. Et effectivement, du coup, avec cette logique de la religion, le suicide vient comme la transgression majeure. Donc ça va être un argument et un élément supplémentaire pour, en effet, alourdir cette situation. Et pour certains, peut-être, qui ont la foi, c'est ceux qui peuvent être dans ce recours religieux, peut-être trouver à la fois l'aspect transgressif, mais aussi l'aspect de ce choix d'une métaphysique, ce choix de partir, après tout, vers les paradis espérés. Donc, effectivement, la religion, en tant que prisme social, elle est compliquée là-dedans. En tant que choix d'individu, peut-être qu'elle peut être éclairante aussi.
Il y a aussi, je pense, peut-être une importance de la violence, de l'acte suicidaire. Est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, quelqu'un qui aurait perdu sa mère pendue, serait mieux passé que de la voir se suicider d'une autre manière ?
Ça, je ne pense pas que le mode opératoire soit en quelque façon important dans l'aventure. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont lourdes, qui sont compliquées, qui sont terribles, et des visions qui doivent être abominables et rester souvent dans le souvenir gravé. Mais quel que soit le mode opératoire, qu'on se suicide par la noyade, par la pendaison, par aller trop vite et se lancer sur une pile de pont, sur une autoroute, je crois que quel que soit le choix, la culpabilité va être là, la violence est là, cette sensation de disparition et d'avoir de laisser l'énigme entière est là, quelle que soit la manière de s'y être pris et de s'être comporté à ce moment-là.
Je voudrais revenir à Durkheim, tout simplement, parce qu'il avait établi donc différentes typologies de suicide. Est-ce que vous y croyez ?
C'est-à-dire que, surtout d'un point de vue psychanalytique, pour y revenir, la question de la souffrance est centrale. Alors c'est vrai qu'il y a on s'immole devant la NPE, le Pôle emploi en ce moment, et on voit bien qu'il y a des contagions sociales comme ça, et puis on voit bien que là, ça fait réponse à une violence sociale, effectivement. Donc il y a sûrement quand même à différencier les situations, mais je crois surtout quand même que d'un point de vue psychanalytique, pour le coup, pour le reprendre cet élément-là, on est là sur une souffrance personnelle, sur quelque chose qui est une douleur infinie, que seule la mort vient résoudre, vient apaiser. Je ne mets pas de jugement de valeur. Donc on est bien sur des situations qui échappent aux typologies, qui échappent quasiment à la socialisation. Je crois qu'il faut vraiment qu'on reprenne cette question du suicide, puisque c'est une réclamation du soi. Hein, c'est soi qu'on nide, c'est soi qu'on supprime. Il faut vraiment la reprendre vraiment au cas par cas. Au-delà de tous les conforts, on va dire, analytiques, sociologiquement analytiques, qui permettent des analyses sociologiques, je crois qu'il faut que... et d'ailleurs, je vais au-delà de cette question-là, c'est-à-dire que si cette souffrance-là trouve à s'énoncer sur un divan ou dans des processus thérapeutiques, on voit bien qu'on... D'une certaine manière, la plupart du temps, en parlant de cette question qui hante les personnes, qui hante, on peut l'éviter, le suicide. Quand on le parle, quand on le pense, quand on parle de sa difficulté, quand on la met... Ça peut être évidemment sur un divan, mais ça peut être aussi dans de l'amitié, dans de la confidence ou dans d'autres rencontres. Le suicide est évitable, au fond. C'est-à-dire que réfléchir à sa mort, penser sa fin, penser ne passe pas forcément par des actes autodestructeurs d'une violence inouïe. Donc les typologies, pour y revenir, je pense qu'elles sont un tout petit peu des conforts, des conforts pour les survivants, mais pas forcément des efficaces pour ceux qui travaillent vraiment cette question-là.
Vous parliez de violence sociale. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être aussi la cause du taux de suicide élevé chez les personnes gays et lesbiennes ?
Bien sûr. Je pense que cette violence symbolique qui est là, renforcée évidemment dans certaines périodes dites de crise, celles qu'on ne quitte plus, qui résonnent dans les crises familiales, dans la difficulté effectivement des cheminements identitaires de tout adolescent, de tout jeune adulte, de tout adulte. Bien sûr que il va y avoir là des zones de répercussion et que ça va jouer. Plus une société va être divisée, fracturée, plus elle va être compliquée à vivre pour chacun de ces individus et plus des actes majeurs vont pouvoir s'y dérouler. Ouais.
Enjeu de santé, c'est déjà fini. Merci d'avoir suivi ces deux épisodes sur sur le suicide. Si vous voulez évidemment d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur le site de radiocampusrennes.fr où vous retrouvez tous les podcasts de votre super émission Enjeux de santé. Bonne journée.